Bonsoir Fabienne Saintès.
Bonsoir Charline, les garçons et les filles, à demain, même heure, même endroit. Nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Attachez vos ceintures, bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, ça commence avec le premier journal complet de la soirée, celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi 8 septembre commence dans la cour de la préfecture de police de Paris.
Un combat sans relâche contre l'hydre islamiste. C'est la promesse du président de la République face au cercueil des quatre victimes de la préfecture de police de Paris ce matin lors de l'hommage qui leur était rendu. Discours musclé et interpellation sans concession cet après-midi à l'Assemblée. Des questions se posent sur la mosquée que fréquentait l'assaillant, sur un imam en particulier. La Française Sylvie Goulard, choisie pour être commissaire européenne par l'Élysée, refuse de démissionner si elle est mise en examen. Elle tente de sauver sa tête dans une réponse écrite aux réserves des eurodéputés. Faire la promotion du Botox ou de la médecine esthétique à la télé, une grande première ce soir. Les producteurs d'émissions vont toujours plus loin pour faire de l'audience. Et le temps, demain, agité encore, la météo complète à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
À 18h15, un jour dans le monde, au lendemain des injonctions contradictoires, ordre et contre-ordre des Américains, les Kurdes ne sont pas plus avancés, pas moins inquiets. On essaiera de comprendre en longueur ce qui se joue là-bas. Le bruit du monde est en Inde qui essaie de lutter contre la tuberculose. Et puis 19h20, le téléphone sonne avec un invité, un seul, pour vous tout seul. Cyril Dion, le réalisateur, militant écologiste. Il est la voix off d'un film positif et réjouissant sur une ferme éco-responsable aux États-Unis. Il est aussi l'un des garants de la Convention citoyenne pour le climat qui a commencé. On parlera avec lui des jeunes d'Extinction Rébellion, des agriculteurs qui aujourd'hui même disent qu'ils ne veulent pas qu'on les traite d'empoisonneurs. En voilà beaucoup de thèmes abordé avec lui, c'est à vous de voir et c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Un hommage martial aux victimes de la tuerie de la préfecture de police de Paris.
Dans la cour de la préfecture ce matin, sous un ciel de plomb et sous une pluie sinistre, le président Macron a salué la mémoire des quatre fonctionnaires morts, poignardés par l'un des leurs. 7 minutes de terreur jeudi dernier et 4 cercueils recouverts d'un drapeau tricolore ce matin dans la grisaille parisienne. Le chef de l'État a appelé à faire bloc. Il convoque une nation réunie face au terrorisme islamiste. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir.
Vous avez assisté à l'éloge funèbre, ou plutôt à un discours de combat.
Un discours présidentiel de 15 minutes environ, après avoir passé au moins 20 minutes à saluer et réconforter les familles des victimes et les collègues les plus proches dans cette direction du renseignement qui était chargée de repérer les terroristes et qui a été si cruellement frappée en son cœur par l'un des siens. C'est inconcevable, a dit le président Macron, qui a en effet promis un combat sans relâche.
Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion, mais bien contre son dévoiement et ce qui conduit au terrorisme. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser. Une société de vigilance. Faisons bloc face au terrorisme islamiste. Nous menons le combat. Nous mènerons toujours le combat et à la fin, nous l'emporterons.
Le président Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nunez se sont inclinés devant les 4 cercueils recouverts d'un drapeau tricolore. Les 4 victimes, Damien Ernest, 50 ans, Anthony Lancelot, 39 ans, Brice Lemescam, 38 ans, Aurélia Trifiro, 39 ans, ont été élevés au rang de chevaliers de la Légion d'honneur. Le président a eu un mot particulier pour leur famille. La République sera toujours à vos côtés, a-t-il promis.
Merci beaucoup Sophie Parmentier. Dure journée pour le ministre de l'Intérieur. Elle a commencé un peu plus tôt pour Christophe Castaner, auditionné à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, il a dû répondre cette fois en public lors des questions au gouvernement dans l'hémicycle et puis en ce moment même en commission des lois. Et ce n'est pas fini. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, va donner suite à la demande de la droite de créer une commission d'enquête sur l'attaque. Elle se mettra au travail dès la semaine prochaine. Et parmi les questions brûlantes autour de la radicalisation de l'assaillant, celle de la mosquée qu'il fréquentait dans le Val-d'Oise, à Gonesse, pas considérée comme salafiste. La question en fait d'un imam en particulier prêchant là-bas. Peu de temps, il en a été évincé. Le député de gauche de la circonscription, François Pouponi, a interpellé le gouvernement cet après-midi à l'Assemblée. Cécilia Arbonin.
Député du Val-d'Oise, François Pouponi a fait part de son embarras en rappelant que lorsqu'il était maire de Sarcelles en 2015, il avait allé les services de renseignement sur un imam très controversé.
Il était salarié d'une mosquée, la mosquée de Sarcelles. Et c'est pour ça qu'à l'époque, la préfecture du Val-d'Oise a pris une obligation de quitter le territoire français pour cet imam. Il a été à Garges-lès-Gonesse, puis à Gonesse, et on le retrouve maintenant en relation avec celui qui a tué à la préfecture de police. Et j'ai vu que M. Castaner était un peu gêné, donc à passer la patate chaude à M. Nunez.
Malaise dans l'hémicycle, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui a répondu, mais son secrétaire d'État, Laurent Nunez.
Il y a des contrôles qui sont diligentés dans les commerces et un suivi des mosquées. Si l'auteur de l'attaque fréquenter cette mosquée régulièrement, les investigations sont en cours. Si cette mosquée a été effectivement dirigée par un imam que vous qualifiez de salafiste et de fiché S, là encore, les investigations permettront de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais sachez que cet individu n'a été à la tête de cette mosquée que pendant un an.
Des explications jugées un peu légères par François Pupponi.
On l'a bien vu pour les frères Kouachi, dès lors qu'ils sortent des radars d'une direction, l'autre direction ne prend pas forcément la relève. On ne peut plus continuer comme ça.
Le député du Val-d'Oise réclame en urgence le décloisonnement de nos systèmes de renseignement.
La Macronie sur le grill aussi au niveau européen.
Mais Sylvie Goulard ne démissionnera pas si elle est mise en examen. Candidate choisie par l'Élysée pour la Commission européenne, elle est citée dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif des assistants d'eurodéputés Modem. Angélique Bouin, vous êtes notre correspondante européenne à Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Sylvie Goulard tient bon dans sa réponse écrite aux eurodéputés. Elle tient bon sur son projet et son intégrité, Angélique.
Oui, c'est un document de 58 pages que la candidate a adressé aux eurodéputés. Sur l'affaire du Modem, elle ne démissionnera qu'en cas de condamnation définitive, explique-t-elle. Pour une mise en examen, Sylvie Goulard s'en remettra à la future présidente de la Commission. Une réponse qui risque d'être assez mal reçue par une partie des élus. Sur l'autre dossier qui empoisonne sa candidature, son activité de consultante quand elle était eurodéputée, la candidate française tente de convaincre sur plusieurs pages. « Je n'avais aucune relation avec les activités commerciales de Monsieur Bergruen », écrit-elle avant de détailler les tâches qu'elle effectuait, dit-elle, pour la fondation du milliardaire. Planification de réunions, rédaction de documentation, identification de conférencier. Alors a-t-elle mis en relation cet homme avec Emmanuel Macron en vue du financement de sa campagne électorale ? Non, ils se connaissaient avant, écrit-elle en réfutant à plusieurs reprises tout conflit d'intérêts. Un document dans lequel elle défend également la grosseur de son futur portefeuille, le numérique, l'industrie, la défense. Il y a plein de synergies. Je travaillerai dur, promet-elle. Mais cela suffira-t-il à convaincre ou devra-t-elle passer une seconde audition ? La décision prévue aujourd'hui a été renvoyée à demain, signe que les discussions vont bon train entre les trois grandes familles politiques qui ont la majorité au Parlement, confie une source bien informée.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles, merci à vous. La France inquiète de la situation en Syrie et des revirements de position de son allié théorique là-bas, l'américain Donald Trump. Après avoir annoncé un retrait des troupes états-uniennes, ce qui laisse le champ libre à la Turquie pour attaquer les forces kurdes, le locataire de la Maison-Blanche a fait marche arrière. Pas question d'un retrait, mais seulement d'un redéploiement d'une centaine de soldats maximum ailleurs en Syrie. De nombreuses puissances étrangères ont alerté sur le risque de chaos si la Turquie s'en prenait aux Kurdes qui ont combattu en première ligne les djihadistes de Daesh et installé au pouvoir un pouvoir autonome dans le nord de la Syrie. Parmi elles, la France. Bertrand Galichet, vous nous avez rejoint. Pourquoi Paris s'inquiète à ce point du sort des Kurdes là-bas ?
Eh bien parce que la mobilisation des combattants kurdes contre une possible intervention de l'armée turque offrirait un nouvel espace à l'État islamique. Même si l'organisation est défaite sur le plan territorial, ses réseaux dans le nord de la Syrie restent actifs et dangereux. Ils sont quotidiennement combattus par les Kurdes, ceux-là même qui pourraient être contraints d'affronter une attaque de la Turquie. La France sait que les forces démocratiques syriennes, milices arabo-kurdes, jouent un rôle majeur contre Daesh. Paris a donc rappelé à Ankara les engagements pris par la Turquie dans la coalition anti-État islamique. C'est la priorité. L'autre motif d'inquiétude étant les djihadistes et leurs familles détenus par les Kurdes dans des prisons ou des camps. La France redoute leur évasion à la faveur d'une intervention militaire turque. Près de 450 ressortissants français sont toujours retenus dans les camps de Al-Hol et Roj dans l'extrême nord-est de la Syrie, pour l'instant hors de portée d'une éventuelle attaque de la Turquie. Malgré les risques d'incursion turque en zone kurde, Paris n'a pas changé de doctrine concernant les djihadistes français, à savoir, ils doivent être détenus et jugés sur les lieux de leurs crimes.
Bertrand Galichet, merci à vous. Les États-Unis en plein bras de fer avec la Chine, mais le match s'est déplacé sur le terrain du basket, sur le parquet de la NBA. La Ligue de basket refuse de s'excuser et de contrôler les propos des joueurs ou des patrons de clubs. C'est sa réponse aujourd'hui à la colère de Pékin depuis que le dirigeant de l'équipe des Houston Rockets a exprimé son soutien aux manifestants à Hong Kong. On y revient dans le journal de 19h.
Ils n'ont peuvent peuvent plus d'être regardés comme des empoisonneurs.
Les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui en France, de l'Alsace à la Mayenne en passant par Toulouse, Périgueux ou le Morbihan. La FNSEA, et le syndicat majoritaire, et les jeunes agriculteurs appelaient à des blocages sur les autoroutes, notamment pour dire stop à l'agribashing, les critiques contre les méthodes des éleveurs et des producteurs. Près d'Amiens, au rond-point de Beauve, une soixantaine d'agriculteurs ont tenté d'engager le dialogue avec les consommateurs pour leur prouver qu'ils faisaient correctement leur métier. François Sauvestre les a suivis.
Les agriculteurs comme Thomas Leroux, céréaliers et betteraviers à Moreuil sont venus sur ce rond-point car ils n'en peuvent plus d'être accusés de polluer la nature et les produits qu'ils cultivent.
On met pas des protections sur nos plantes pour le fun. C'est comme chacun de nous, quand on est malade, on va voir le médecin, on demande des médicaments. Les médicaments, c'est à base de quoi ? Produits chimiques. Nous, c'est pareil. On les met de façon raisonnée. Là, aujourd'hui, à le bol, on nous en demande trop.
Au milieu de l'opération Escargot, les agriculteurs tentent de sensibiliser les consommateurs.
Bonjour, madame.
Si le message passe pour certains...
On les aide pas, ils auraient besoin d'être aidés et on les écoute pas.
Je comprends tout à fait qu'ils manifestent.
C'est beaucoup plus compliqué pour d'autres.
Nous, les particuliers, on n'a plus le droit d'utiliser de produits. Puis eux, ils ont le droit de bombarder dans les champs toutes les semaines des produits.
On est bien d'accord que la merde, elle vient de eux. Quand on ne peut plus boire d'eau, j'habite à la campagne. Hein. Je les vois faire.
Face à cette défiance, les agriculteurs jouent la transparence, invitent à venir voir ce qui se passe dans les fermes. Il faut renouer un lien cassé avec les consommateurs qui ont aussi leur rôle à assumer pour Hélène Côté. Elle est agricultrice près d'Amiens.
Il y a certainement des choses à améliorer, mais on ne peut pas aller plus vite que la science. Il faut quand même qu'on mange. Si ce n'est pas la France qui produit, on va importer de la merde. On veut que la France s'arrête. Enfin, il y a un moment où il faut réfléchir un peu plus loin que le pesticide qui va une fois de temps en temps être au bout de votre jardin.
Au total, ce sont près de 300 agriculteurs qui ont manifesté dans la Somme.
Fini le remboursement de l'homéopathie, c'est désormais inscrit au journal officiel. Les granules ne seront plus prises en charge par la Sécu à partir du 1er janvier 2021. Le ministère de la Santé a suivi l'avis de la Haute Autorité de Santé en juin. Elle concluait en l'absence d'efficacité avérée de l'homéopathie. 14 milliards de dollars, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme va tenter de collecter cette somme aujourd'hui à Lyon. 14 milliards pour venir à bout de ces épidémies d'ici 2030, c'est dans 11 ans. Un défi ambitieux, les donateurs se montrent de moins en moins généreux car la lutte contre le sida semble moins urgente et beaucoup redirigent leurs fonds vers la protection de l'environnement. Le Nobel de physique a été décerné à des cosmologues ce matin. Il va pour moitié à James Peebles, canado-américain, pour ses découvertes en cosmologie physique et pour l'autre moitié à deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, pour leur découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire. Les trois ont contribué, selon le comité, à changer à jamais nos conceptions du monde. Cela valait bien donc un Nobel. Là, on se gardera bien de décerner un Nobel au créateur d'une nouvelle émission programmée ce soir sur M6. Objectif 10 ans de moins, c'est son titre. Le concept proposé à des candidats de les rajeunir à coups de botox et d'injections en tout genre. La médecine esthétique en première partie de soirée à la télé. Bonsoir Alexandra Akoun, notre spécialiste des médias. On n'était jamais allé aussi loin sur le petit écran. Hein.
Et oui, Amélie, le temps où il suffisait d'enfiler un juste au corps fluo et de suer sur de la musique pour être bien dans sa peau et dans son époque, eh bien, elle est bien révolue. Ce soir, M6 nous fait entrer dans une nouvelle dimension.
J'ai envie de redevenir la femme que j'étais avant. Mais tu sais qu'il y a des solutions.
Médecine esthétique.
On y va ?
Oh oui.
Et avec ça, on va remonter le temps.
Et le ça qui permet de remonter le temps, c'est donc une petite injection d'acide hyaluronique ou de botox. Ne me regardez pas comme ça, Fabienne. Mais attention, vous l'avez entendu, on ne parle pas de chirurgie esthétique. Ce qui fait doucement sourire la sémiologue des médias, Virginie Spies.
Dire médecine esthétique, c'est un élément de langage pour pas dire chirurgie, justement. C'est vraiment du marketing. Mais là où on voit en plus qu'on passe un cap et que ça peut faire hurler, c'est qu'on est quand même passé de belle toute nue. L'émission où justement sur M6, on apprenait, entre guillemets, aux femmes à s'accepter telles qu'elles étaient, à « bon bah finalement t'es pas belle toute nue, donc on va quand même faire quelque chose pour ton corps ».
Et pour Christina Cordula, la madame coaching beauté de M6, qui prodiguera aussi conseils nutritionnels et sportifs pendant l'émission, il s'agit de lever un tabou sur une pratique de plus en plus courante. Virginie Spies, au contraire, y voit une injonction insupportable.
La question, en fait, qui est posée ici, c'est que finalement, le bonheur, il serait concomitant à des questions physiques. Ça nous dit aussi que finalement, c'est de là que viendrait le bonheur et pas d'autre chose. Et donc, ça nous met tous et toutes, surtout ici, dans des cases, et nous dit que si on fait pas ça, ben, on sera pas bien. On sera pas dans la norme.
Et si vous pensez qu'avec ça, on a touché le fond, eh bien, sachez que Karine Le Marchand, toujours pour M6, prépare actuellement une émission d'amaigrissement extrême.
Je sais pas si je vous remercie, Alexandra.
50 ans de féminisme, les filles. 50 ans de féminisme.
Objectif 10 ans de moins, c'est le titre de l'émission. 10 ans de moins, nous, ça nous fait quoi? 16 ans,
à peine majeur.
C'est pas pour nous, Fabienne.
Allez, Amélie Perrier, à tout de suite, et surtout, venez comme vous êtes. Ce soir, nous essayons aussi de comprendre ce qui se joue en ce moment entre les Turcs et les Kurdes, après les volte-face de Donald Trump, qu'on a beaucoup de mal à suivre. Nous sommes en Inde, ou en Nouvelle-Zélande aussi, dans le bruit du monde, et puis le téléphone sonne. Je vous le remets dans l'oreille, c'est Cyril Dion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le réalisateur militant écologiste, il porte un film sur une ferme éco-responsable aux États-Unis, mais on a aussi envie de l'entendre, évidemment, sur la Convention citoyenne qui a commencé ses travaux, dont il est l'un des garants, sur Extinction Rébellion, qu'on entend beaucoup en France et dans le monde en ce moment, sur les manifs climat, sur l'agribashing, on en parlait à l'instant dans le journal. Tout ça, c'est vous qui faites le menu, évidemment, et ça se passe au 01 45 24 7000.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac, où est-ce que j'en suis, Élodie? Ah oui, le parapluie sera utile demain alors, oui, plus que le Botox au fond.
De la pluie entre le Jura et les Alpes. Alors sur une grande moitié nord jusqu'au massif central, là les nuages seront nombreux. On aura des averses, parfois de l'orage, de bonnes rafales de vent. Sur le littoral du sud de la Bretagne jusqu'au Charente, on retrouvera quand même quelques éclaircies l'après-midi. Sur le sud-ouest, là aussi après une matinée grise et humide, le ciel retrouvera des couleurs, les averses seront rares. Et puis autour de la Méditerranée, là les éclaircies se réduiront, les nuages prendront le dessus l'après-midi.
Et les températures, Élodie?
12 le matin, 10 à 15 degrés, et puis en baisse l'après-midi, 13 degrés à Langres, 15 à Amiens, Paris, Besançon, 16 à Limoges, 17 à Grenoble, 18 à Nantes, 20 degrés pour Bordeaux et encore 21 à 24 autour de la Méditerranée.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.